Vincent Parisot, Isabelle Choquet.
Passe maintenant au deuxième invité d'RTL. Bonsoir, c'est l'invité pour tout comprendre et ce soir, on va dire, il y a de quoi faire.
Oui, tout comprendre ce soir aux élections en Inde, la plus grande démocratie du monde. Près de 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour désigner les 545 députés qui vont siéger pendant 5 ans dans la chambre basse du Parlement.
Alors, comment fait-on pour faire voter près d'un milliard d'individus? Comment s'assure-t-on que le vote est bien fiable? Quels sont les enjeux? Est-ce vraiment une démocratie? On en parle avec Christophe Jaffrelot, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS et donc spécialiste de l'Inde. C'est vrai que tout d'abord, tout est démesuré hein, dans ce scrutin. L'Inde, c'est grand comme 6 fois la France. Presque 1 milliard d'électeurs, 970 millions. C'est forcément une logistique hors norme. Comment ça se passe concrètement? Tiens, déjà, par exemple, c'est pas un vote sur une journée, ni même sur un week-end.
Ah, loin de là, puisque le vote s'étale sur 6 semaines. Il ne s'est jamais étendu sur une période aussi longue hein, depuis que l'Inde vote. Et cela s'explique, bien sûr, par le fait qu'il faille déplacer toute une logistique. D'abord, des forces de l'ordre qui, autour des bureaux de vote, veillent à ce que le scrutin ne dégénère pas. Et puis ensuite, des machines électroniques à voter qui, elles, sont au cœur d'une polémique parce que leur fiabilité est de plus en plus sujette à caution, remise en cause. Et l'opposition au pouvoir s'inquiète de ce que on refuse, la commission électorale refuse les systèmes de vérification des votes. Vous savez, quand on a des bulletins papier, eh bien, quand le scrutin est serré, on recompte, hein, c'est la moindre des choses. Et là, on ne veut pas le faire, parce qu'on ne peut pas le faire dès lors qu'on ne met pas en route ce fameux système de vérification.
Et on est sur à peu près quel nombre de bureaux de vote?
On est à chaque fois sur des dizaines de milliers de bureaux de vote. Mmh. Mais encore une fois, on vote par tranche. Hein, donc, ce ne sont pas des bureaux de vote qui sont en batterie, en parallèle, vous comprenez?
Les structures sont mobiles, on imagine.
Exactement, c'est ça. C'est des hôpitaux de campagne, comme on dirait dans l'armée.
Ce matériel, monsieur Jaffrelot, comment on l'achemine? Parce qu'il y a des régions très très reculées quand même.
Ah ben parfois on a un bureau de vote pour quelques individus. Cela s'est vu dans l'Himalaya, dans des contrées effectivement reculées, voire dans des zones semi-désertiques. Il y a très peu d'inscrits, mais on fait en sorte d'amener les urnes jusqu'à eux.
Parce qu'il y a une règle, hein, de toute façon, il faut quand même que le bureau de vote soit accessible assez facilement.
Exactement, il y a une distance maximale et elle est assez limitée. En fait, un bureau de vote, c'est un quartier en général, hein, ou un village, mais guère plus.
Vous dites que ce qui pose problème, c'est la vérification. On n'est pas certain que tout se passe dans les règles, dans les lieux les plus reculés d'Inde.
Reculés ou pas, hein, la question, c'est la falsification des machines électroniques. Et donc, il y a une demande de vérification. L'idée, c'est de vérifier un échantillon, pas les 1 milliard et quelques de votes potentiels.
Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut voter en Inde? On sait que c'est une société assez particulière avec des castes notamment. Comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut aller voter?
Alors, vous avez un suffrage universel qui a été décidé dès 1950. Hein, à l'époque, l'Inde avait seulement 10% de personnes sachant lire et écrire. On a donné le droit de vote à tout le monde et ça s'est poursuivi. On a même étendu le droit de vote aux plus de 18 ans et c'est pourquoi on a autant d'électeurs. Donc oui, sur le papier, tout le monde, après, l'exerce-t-il? Alors, de plus en plus, on a un taux de participation à faire pâlir les Occidentaux quand même. Hein. On est à 66-67%.
Ah oui.
Quand la France législative vote à 55%. Mais c'est vrai, ceux qui sont censés voter mal, entre guillemets, hein, dans un quartier, dans un village, sont victimes d'intimidation de la part des dominants. Et parfois, on a un biais qui, de ce fait, est lié, comme vous le dites, à la caste. Parce que c'est les plus faibles qui sont les plus intimidables. Mmh. Un point important à souligner, c'est que longtemps, les femmes ont moins voté. On avait 10 points de pourcentage de différence entre les hommes et les femmes. C'est terminé. Et les femmes votent même parfois plus que les hommes. Ça, c'est tout à fait nouveau.
En présentant ce scrutin, on a évoqué la plus grande démocratie du monde. Mais est-ce que l'Inde est vraiment une démocratie dans le sens où on l'entend? Tant nous, Européens, est-ce que n'importe qui peut être candidat? Parce qu'on est quand même aujourd'hui, avec ce Premier ministre et ce gouvernement, dans un régime un peu autoritaire.
Oui, elle est de moins en moins démocratique, l'Inde, ça fait aucun doute. Ces élections sont probablement les moins démocratiques que l'Inde ait connues depuis qu'elle vote, depuis 1951. Parce que ce régime a deux travers. L'un, il est dominé par des nationalistes hindous qui considèrent les minorités, les musulmans, les chrétiens, comme des pièces rapportées ne sont pas prêts à leur reconnaître une citoyenneté pleine et entière. Donc on a une démocratie ethnique, si on veut. Hein. Et deuxièmement, c'est effectivement un régime de plus en plus autoritaire qui s'attaque à l'opposition. On voit aujourd'hui le parti du Congrès, le principal parti d'opposition, ne plus accéder à ses comptes bancaires. Ils ont été gelés. On voit des leaders de l'opposition, comme le chef du gouvernement de l'État de Delhi, emprisonné 15 jours avant le début du scrutin. Et c'est pas le seul chef politique à être derrière les barreaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de médias indépendants. La plupart des médias ont été rachetés par des amis du pouvoir. Ou ont été créés par le pouvoir. Et c'est très difficile de s'informer d'une manière équilibrée. On est dans un déséquilibre considérable.
Narendra Modi, c'est le grand favori, hein, le Premier ministre qui brigue un troisième mandat. Il est quasiment assuré de l'emporter, mais pour faire quoi ? C'est quoi sa volonté pour les années à venir pour l'Inde ?
Eh bien, c'est transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il a réussi à imposer la culture hindoue, la religion hindoue même, sur la scène publique, alors que l'Inde est officiellement laïque. Maintenant, il faut transformer l'essai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer la constitution. Et pour cela, il faut une majorité qualifiée à l'Assemblée, au Parlement. Et donc, l'objectif, cette fois-ci, pour son parti, le BJP, c'est de remporter 400 sièges. Ce qui n'est pas si simple, ce qui ne sera pas si facile, mais on comprend d'autant mieux qu'il ait mis l'opposition dans une situation difficile, qu'il vise cet objectif très ambitieux.
Voilà, pour un scrutin qui va durer au moins 6 semaines. Merci de nous avoir éclairé, donc, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS. Merci d'être intervenu ce soir dans RTL. Bonsoir.
RTL, bonsoir.